Comme cet exposé est celui du mois de janvier, je commencerai par tous vous souhaiter une bonne et heureuse année, espérant que 2014 sera un peu meilleur que 2013, qui nous a valu bien des déconvenues. Je parlerai aujourd'hui de Saint-Cyrille et Méthode, exposé qui tient beaucoup à deux livres, L'Orient chrétien de Mgr Lagier et L'Histoire universelle de l'ANRF, édition 1964, dont le chapitre sur le mont Slave a été rédigé par M. Fischel. Comme j'ai cité plusieurs passages textuellement, je spécifie cela pour ne pas être accusé de plagiat. Proclamé patron de l'Europe par Jean-Paul II, qui souhaitait voir l'Église respirer par ses deux poumons, ces deux saints de l'Église d'Orient sont fêtés avec de plus en plus de ferveur. Leur histoire fut toutefois douloureuse à maintes reprises. Elle est le témoin du caractère violent et souvent inadmissible des luttes fratricides. Leur vie et leur œuvre ont pour cadre la deuxième moitié du IXe siècle et la querelle du Filioque, au sujet de laquelle Fossius accusait le pape d'hérésie. Cette époque voyait également l'essor de l'Empire d'Occident, empire germanique, créé par Charlemagne, qui ne craignait plus de se mesurer à l'Empire d'Orient. C'était aussi l'époque de l'intrusion des Normands. Après avoir terrorisé les premiers Carolingiens, Charles III le Gros dut acheter en 887 le départ des Normands qui assiégeaient Paris, les Varègues mettaient la main sur ce qui devait devenir la Russie. Le terme rousse serait d'origine normande. Les Varèges ont envahi à la fois les estuaires du Niémen au nord et du Dniepr au sud. Ils ont assiégé Byzance de juillet 861. D'autres Normands fondaient un empire dans le sud de l'Italie et en Sicile. Pendant ce temps, les Francs luttaient contre les Saxons. Si l'on ajoute les Asiatiques, notamment les Turcs qui se groupaient à l'est, et les musulmans toujours présents dans le sud, on peut dire sans trop d'erreur que l'Europe à cette époque était à feu et à sang. Néanmoins, le christianisme ne cessait de progresser. Vers 830, Moïmir, le chef d'une tribu slave, qui désirait résister à la pression franque et à celle du clergé germanique, se convertit à la foi chrétienne en se tournant délibérément vers l'empereur de Byzance, Michel III. Il le pria d'envoyer deux missionnaires grecs en Moravie, région qui se trouve à la limite de l'actuelle Tchéquie et de la Slovaquie. C'est Bratislava. Leur mission était de convertir ses sujets par une prédication en langue slave. Michel fit appel à deux frères originaires de Salonique, Constantin, qui prit plus tard le nom de Cyrille, et Méthode. Ces deux frères s'étaient déjà illustrés dans une mission chez les Khazars, peuple voisin des Turcs habitant la basse Volga. Les deux apôtres préparèrent leur mission avec grand soin. Ils traduisirent l'écriture en langue les saintes écritures en langue locale et, pour l'écrire, inventèrent un alphabet permettant de mieux reproduire les sons propres à la langue morave. Ce fut l'alphabet glagolitique, devenu ensuite l'alphabet cyrillique. Il est toujours utilisé chez les Slaves. Il a de nombreuses ressemblances avec le grec. Rome voyait ses efforts avec beaucoup de sympathie, ainsi que Fossius, malgré ses démêlés avec le pape. Mais il n'en était pas de même du clergé germanique, qui voyait son influence sur toute une partie de l'Europe centrale en train de disparaître, avec, il faut bien dire, le danger de ne plus percevoir les diverses redevances qu'entraînait une organisation des activités agricoles. La nature humaine est bien liée au matériel. À la mort de Cyrille, qui fut enterré à Rome en 868, le pape Adrien II nomma Méthode archevêque sur tous les pays et reconnut la validité de la liturgie en langue morave. En 874, Méthode baptisa le prince de Bohême. À la mort de Méthode en 885, l'opposition des Allemands et l'invasion des Hongrois ruinèrent cette œuvre en plusieurs endroits. Mais la création de l'écriture et de la liturgie en morave furent léguées à tous les Slaves comme un grand héritage. Les disciples de Méthode, chassés de Moravie, se réfugièrent chez les Bulgares, et leur glorieux patrimoine fut passé aux Serbes et aux Russes. Ces évangélisateurs ont amené à l'Empire des conquêtes qui n'ont pas été perdues. Byzance vit encore dans les mœurs, les manières et les rites religieux de plus de 100 millions de chrétiens slaves. C'est justement que Jean-Paul II les a pris comme symbole du côté oriental du corps du Christ. Malheureusement, l'affaire se compliqua encore après la mort de Méthode, qui fut enterré avec la célébration d'un office en grec, en slave et en latin. Peu après la mort de Méthode, le pape Jean VIII adressa au chef morave Svatofok une lettre toute à la gloire du défunt et à la louange de son œuvre. Malheureusement, ce document pontifical passa par les mains d'un évêque allemand qui voulait tout faire pour garder la Moravie sous sa dépendance. Le prélat modifia gravement la lettre apostolique qu'il était simplement chargé de transmettre, en changeant des sentences doctrinales, disciplinaires et liturgiques. La lettre devenait une condamnation de l'évêque de Pannonie et du rite morave, le contraire de ce qu'avait écrit Jean VIII. Le pape et Méthode étant mort, le faussaire présenta en toute impunité le document altéré au nouveau pape Étienne V, qui se laissa entraîner, en toute bonne foi semble-t-il, dans ce faisceau de calomnie et condamna la liturgie morale. Cette condamnation provoqua chez Fossus une réaction violente. En plusieurs endroits, les missionnaires byzantins venaient d'être chassés, remplacés par des latins arrivés directement de Rome, que Fossus, dans sa diatribe, appelle les « hommes des ténèbres ». Prenant ensuite l'attitude dogmatique d'un défenseur solennel de l'orthodoxie dynamique, dogmatique, Fossus reprocha au pape et au siège de Rome d'avoir altéré la foi et perverti la croyance. En effet, dit Fossus, le Saint-Esprit procède du Père et non du Fils, le filioque romain est un blasphème. Le patriarche a reproché à Rome d'être d'autres nouveautés disciplinaires et théologiques, mais l'essentiel restait le filioque. Désormais, le nom de Fossus et sa lettre vont être, à travers le temps, le point de ralliement de tous les orientaux, partisans de la séparation. Même si, 11 ans plus tard, Fossus rentra en faveur auprès du pape, Jean VIII, dont il vantera l'esprit pacifique et politique, rien n'effacera les traits de cette malheureuse protestation, accusant le pape Nicolas Ier d'hérésie manifeste. Le schisme ne sera effectif qu'un siècle et demi plus tard, mais le mal suivait son cours. Satan devait se frotter les griffes. Cette affaire lamentable est un exemple typique de la conjonction d'au moins 4 péchés capitaux. L'envie, car les Byzantins enviaient le pouvoir de Rome, et les Allemands la réussite de Cyril et Méthode. L'avarice, car les Allemands voulaient garder pour eux le territoire de la Moravie. La colère, car nul n'admettait que l'autre pût avoir raison et surtout l'orgueil, car on cherchait plutôt sa propre gloire que le service du Seigneur. Ajoutez un peu de mensonge et la sauce est bien prise. Nous ne nous quittons pas sur une note aussi sinistre, car le principal reste quand même l'œuvre de Saint Cyril et Méthode. Leur œuvre se développa dans tous les pays slaves. De leur école sortirent une littérature, une liturgie et tout un art magnifique. J'ai pu personnellement le constater sur place. S'ils ignorent les sculptures, ils ont des mosaïques extraordinaires qui m'ont conduit à penser que la peinture est la mosaïque du pauvre. J'ai pu constater il y a 2 ou 3 ans l'affront intense d'un peuple enfin libéré du matérialisme socialiste. Pour ne citer qu'un exemple, ils ont rebâti à l'identique et en 2 ou 3 ans une splendide cathédrale que Staline avait rasée pour installer une piscine. Le guide qui nous a présenté le monument a toutefois tenu à nous signaler que le marbre de Carrare trop cher avait été remplacé par du marbre de Sibérie. Vraiment peu de choses. Mais les mosaïques étaient toujours magnifiques. Nous avons, ma femme et moi, assisté à Moscou à une veillée pascale, orthodoxe. Elle a fini à 3 heures du matin. Mais quelle splendeur dans les chants et quel respect dans la liturgie. Nous ne nous sommes pas ennuyés une minute. Et nous étions là depuis 11 heures du soir. Nous avons beaucoup à recevoir de nos frères d'Orient. Que les saints Cyril et Méthode intercèdent pour que bientôt, tous réunis, nous puissions célébrer notre Sauveur. J'assistais aussi à un pèlerinage où nous avons fait plusieurs oratoires pour les saints Cyril et Méthode et constaté qu'à Nitra, capitale de la Moravie, il y avait une foule énorme, très, très, très recueillie pour honorer ces saints. Prions donc pour que l'unité revienne vite, non seulement entre catholiques, mais avec nos frères orientaux. Voilà, je vous souhaite encore une bonne année et à bientôt dans un mois.
ce sujet.